La fin du monde se rapproche, en croire l'horloge de l'apocalypse qui affiche désormais 100 secondes avant minuit. Créée après la Seconde Guerre mondiale, cette horloge symbolique simule l'extinction de l'humanité en fonction de plusieurs facteurs.
Oh putain, y'a un truc qui traîne en ce moment là, c'est...
Ça va sans doute être un scoop pour vous, mais il se pourrait bien que la fin du monde ait commencé le 6 novembre 1989, à une heure non précisée, à Noordwijk, station balnéaire de la mer du Nord, et oui, ça existe, quelque part aux Pays-Bas. Ce jour-là voyait la fin du premier grand sommet consacré au réchauffement climatique. 10 ans auparavant, quelque part en 1979, à une heure là encore non précisée, l'humanité, c'est-à-dire vous, moi, mais surtout eux, avait enfin pris conscience des conséquences sur le climat de la Terre, des émissions de gaz à effet de serre et donc de la nécessité de les réduire pour, donc, éviter que ne s'enclenche un processus que, à part quelques bienheureux comme Greta T., plus personne ne croit qu'on puisse désormais le stopper, ni l'inverser, ni même en limiter les effets dans la centaine d'années à venir. Dans un ouvrage justement intitulé « Perdre la Terre », co-publié par les éditions du Seuil et les bien nommées éditions du Sous-sol, le tout sans jeu de mots, Nathaniel Rich, journaliste au New York Times, raconte que ce fameux 6 novembre 1989, c'était un lundi, j'ai vérifié pour vous, tous les participants au sommet étaient d'accord pour geler, quelque part vers l'an 2000, les émissions de carbone, principales responsables de l'effet de serre, à leur niveau de 1990, c'est-à-dire, vous aurez calculé, à peu près au moment où se tenait la conférence. Pour les experts qui, dès 1979 donc, avaient exposé le rapport entre les émissions de CO2 et l'augmentation de la température de la planète, c'était une condition sine qua non pour que la machine ne s'emballe pas. Le plus étonnant, comme le rappelle Nathaniel Rich, qui, évidemment, ne s'intéresse qu'aux Américains, c'était que en 1989, aussi bien l'opinion publique américaine ou du moins l'avis qu'elle donnait à coups de sondages truqués. Le président des États-Unis, George Bush, ou du moins ses conseillers inféodés au complexe militaro-industriel, et même l'industrie du pétrole et du gaz, toute puissante, ou du moins ses services de communication, étaient tous et toutes favorables à une action vigoureuse contre les gaz à effet de serre. Mais bon, c'est comme ça avec les présidents des États-Unis, c'est le dernier qui parle qui a raison. Et l'histoire retiendra, ou pas, que c'est un certain John H. Sununu qui, au dernier moment, donna l'ordre à Alan Bromley, à l'époque conseiller scientifique du président américain, de faire capoter la conférence. Né en 1939 à La Havane, John, en plus d'avoir un nom ridicule, a tout sur la photo de l'américain moyen blanc type. Il est un peu bouffi sur les joues, son sourire est niais, sa coupe de cheveux n'est pas vraiment travaillée et surtout, il arbore cet air satisfait des Américains qui, nous autres Européens héritiers d'une vieille civilisation, a, comment dire, tendance à nous les briser menus. John a aujourd'hui 81 ans et il est donc probable qu'il ne connaisse pas la fin du monde qui, comme le disait à peu près Woody Allen, sera sans doute longue, surtout vers la fin. Mais le gars a si bien travaillé que non seulement il a pu faire capoter, il y a plus de 30 ans, une des dernières initiatives qui nous aurait laissé une chance de nous en sortir, mais encore, si on rejouait aujourd'hui à Noordwijk, station balnéaire de la mer du Nord, la même conférence, il n'est pas sûr que les Américains, et maintenant les Chinois, se comporteraient différemment. Il y a des séries, c'est comme Game of Thrones, pour bien faire, ça aurait dû finir avant la fin.